3 ans, 7, j'ai fatigué dans mon créolité, mon Oulissa a coquillé.
Et si c'est la guerre des continents, je préfère partir tout doucement, chercher dans l'amertume un petit bout de terre brune, creuser mon îlot désert des insulaires. Solitaire, bloqué dans l'empire des célibataires.
T'attends la femme corsaire, t'attends la louve des mers, belle naufragée qui viendra s'échouer sur l'insularité
pour aller se dorer toute l'année, loin des remous du temps, loin des cités d'argent. Accueillir tous les gens sans terre, tous les bannis du continent, avec ma drôle d'affaire, tout recommencera comme avant. Et si c'est la guerre des continents, je préfère partir tout doucement. Chercher dans l'amertume un petit bout de terre brune, creuser mon îlot désert des insulaires. Et si c'est la guerre des continents, je préfère partir tout doucement. Chercher dans l'amertume un petit bout de terre brune, creuser mon îlot désert des insulaires. Oh désert des insulaires. Oh désert des insulaires.
Empire ou gravure. Empire ou gravure.
Actif, le mix des cultures.
Ah tiens Bill, on va passer un super disque. Alors tu fais le disque.
Mais le disque, tu mets juste le bras du pick-up sur le truc en cire et tout.
Set me free. 4, 5, 6. Tired of your crafty tricks. 7, 8, 9. When you gonna give me what's mine? What you want from me, I gave to you. What I want from you, you won't give to me. What you want from me, I gave to you. What I want from you. Na-na-na-na. 10, 11, 12. It's time now to help yourself. 13, 14, 15. I wanna get on the big scene. 16, 17, 18. I'm the one with the bullet. What you want from me, I give to you. What I want from you, you won't give to me. What you want from me, I give to you. What I want from you. Set me free. 4, 5, 6. Tired of your crafty tricks. 7, 8, 9. Trying to give me what's mine. What you want from me, I gave to you. What I want from you.
À l'écoute de RFI, il est 6h ici à Paris, 2h de moins en temps universel. L'heure d'un nouveau journal avec vous Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Bien, bonjour Simon, bonjour à tous.
On ne se frappe plus, mais on menace de le faire de nouveau.
La tension toujours très vive entre Iraniens et Israéliens, alors que la trêve a été fortement fragilisée par des attaques de part et d'autre dimanche et lundi. On y revient dès le début de cette édition. À la une également, l'émotion toujours très vive en France après le meurtre de la jeune Liana. Émotion et colère aussi, des dysfonctionnements judiciaires sont pointés du doigt. On sera en République démocratique du Congo, dans le nouveau centre de traitement à Rwampara, qui accueille des malades d'Ebola. Et puis on va parler cinéma avec la sortie demain en France du nouveau film du réalisateur américain Steven Soderbergh. Les vols ont repris à l'aéroport de Téhéran, tandis que les écoles s'apprêtent à rouvrir en Israël. Retour à la normale, ou en tout cas retour au cessez-le-feu qui était en vigueur depuis 2 mois et qui a connu son premier vrai coup de chaud dimanche et lundi. Israéliens et Iraniens se sont mutuellement attaqués. Les Iraniens d'abord, en représailles à des frappes israéliennes contre le Hezbollah libanais, soutien de Téhéran. Puis l'État hébreu a répliqué. Alors, pas de mort signalée, mais une quinzaine de blessés dans la République islamique. L'Iran, qui a finalement annoncé une cessation de son opération, tout en prévenant qu'elle reprendrait de plus belle s'il devait y avoir de nouvelles attaques israéliennes, que ce soit en Iran ou au Liban. Son cloche assez similaire du côté du Premier ministre israélien, qui revendique le droit de son pays à se défendre chaque fois que nécessaire. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs à Donald Trump, qui l'a appelé pour lui demander de cesser ses frappes. Et c'est vrai que la position de Benjamin Netanyahou est assez délicate entre message de fermeté envoyé aux Israéliens et impossibilité à se mettre à dos son précieux allié américain. Correspondance à Washington de Vincent Souriau.
Avant d'être enseignant à l'université américaine de Washington, Dan Arbel était diplomate de carrière en Israël. Quels que soient les grands discours de Benjamin Netanyahou, dit-il, à l'heure actuelle, sa politique étrangère se décide à la Maison-Blanche.
Lorsque Trump lui demande de cesser le combat, il s'exécute la plupart du temps. Et si Trump lui donne le feu vert, il reprend ses opérations. Israël a perdu beaucoup d'indépendance dans sa manière d'appliquer sa stratégie. Ce n'est pas que les relations soient fragiles, c'est que la dynamique entre ces deux dirigeants est telle que si Netanyahou ne s'aligne pas sur ce que Trump attend de lui, il s'expose à des mesures de rétorsion.
Benjamin Netanyahou, pieds et poings liés, parce que d'après Dan Arbel, le premier ministre israélien a aussi placé son propre avenir politique entre les mains du président américain.
Il espère que la pression que Trump exerce sur le président israélien fonctionne et qu'il finisse par être gracié de ses procès criminels. Netanyahou mélange les intérêts politiques d'Israël avec ses considérations personnelles. Et il est prêt à faire tout ce que Trump lui demande parce qu'il espère que Trump va l'aider personnellement et politiquement. C'est pour ça qu'il perd les leviers qu'il pouvait avoir.
En octobre, il y a des élections en Israël. Benjamin Netanyahou rêve, selon Dan Arbel, que Donald Trump le soutienne, comme il l'a fait par exemple avec Viktor Orban, et clamant public qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable pour les Israéliens. Vincent Souriau, Washington RFI.
Et les frappes israéliennes se poursuivaient hier dans le sud du Liban. Elles ont visé une quinzaine de localités, notamment celle de Tyr. Selon un bilan des autorités et de la Croix-Rouge, au moins 14 personnes ont été tuées, plus d'une vingtaine d'autres blessées. Le Hezbollah, lui, a revendiqué de nouvelles attaques contre des forces israéliennes dans cette région du sud Liban. En Ukraine, ce sont au moins 4 personnes qui ont été tuées après une attaque russe près de Kharkiv. 15 personnes blessées également. Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu par téléphone avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, dont il salue, je cite, la volonté de travailler activement dans les semaines à venir pour redonner un élan à la diplomatie. RFI, il est 6h04 à Paris, la France, où plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées hier devant des tribunaux, car pour ces manifestants, la justice a une part de responsabilité dans la mort de Liana, une collégienne de 11 ans. Son meurtrier présumé est le père de l'une de ses amies, côtoyé notamment dans le cadre d'une soirée pyjama. Il était visé par plusieurs plaintes et signalements liés à des faits de pédocriminalité sans être pour autant systématiquement interrogé. Dans un courrier rendu public hier soir, le Premier ministre Sébastien Lecornu a évoqué une incompréhension sur les circonstances de ce drame. Il recevra en fin de matinée plusieurs membres de son gouvernement pour décider de nouvelles mesures sur la protection des enfants et contre les violences sexuelles. Car il y a urgence, nous disent ses parents, rencontrés à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne. Reportage d'Oriane Gendreau.
Devant l'école primaire Jules Ferry, très peu de parents veulent évoquer l'actualité anxiogène. Une chose est sûre pour Sarah, elle ne laissera plus ses enfants faire des soirées pyjama.
Maintenant, non. J'ai trop peur. Je ne veux pas laisser mon fils chez quelqu'un que je ne connais pas, en fait.
Qu'est-ce que vous lui dites à lui pour le sensibiliser ?
Je fais attention à mon fils, c'est tout. Je ne veux pas dire.
Ne pas en parler pour préserver les enfants, c'est la stratégie d'une partie des parents. Anne n'est pas d'accord. Avec ce qui se passe, il faut essayer de les alerter le plus tôt possible.
On fait plus de prévention vis-à-vis de nos enfants. Bah surtout, moi j'ai 3 filles, bon, j'ai une de 23 ans, j'ai une de 9 ans, une de 5 ans. Donc forcément, il y a davantage plus de discussions autour de la table.
La mère s'appuie notamment sur des vidéos YouTube pédagogiques. Samira, de son côté, a sensibilisé ses deux garçons dès la maternelle, il y a 4 ou 5 ans.
On les apprend déjà à connaître leur corps, à respecter l'intimité des autres. Si on rentre dans les pyjamas parties, ce genre de choses, ils sont au fait de la sensibilité, aussi de l'intimité. Et même à la maison, ils se protègent, ils disent « tu peux pas venir parce que voilà ». Je suis aussi rassurée parce que je me dis « voilà, ça a été intégré ».
Depuis 2001, l'école est censée éduquer à la vie affective, relationnelle et sexuelle dès la maternelle. Mais les programmes sont encore inégalement appliqués, faute de moyens.
C'était un reportage d'Oriane Gendreau. Le début aujourd'hui à Paris du procès en appel d'Eugène Rouamoucho. Fin 2024, cet ex-médecin rwandais avait été condamné en assise à 27 ans de prison, notamment pour complicité de génocide et complicité de crime contre l'humanité. C'était lors du génocide des Tutsis en 1994. 530 parties civiles seront à nouveau représentées pour ce nouveau procès qui doit s'achever le 17 juillet. Le directeur général de l'OMS parle d'un bon taux de réussite dans la prise en charge des Ebola en Ouganda, où il s'est rendu hier. Il a salué la stratégie mise en place par ce pays où 19 cas ont été confirmés. Bilan beaucoup plus lourd chez le voisin congolais, là où cette nouvelle épidémie s'est déclarée. Plus de 500 cas confirmés en RDC, 91 morts, 12 guérisons, mais aussi près de 300 patients toujours placés à l'isolement, hospitalisés. Alors certains sont accueillis dans des structures médicales classiques, d'autres ont pu rejoindre des centres de traitement dédiés, notamment à Bunia, capitale provinciale de l'Ituri, épicentre de cette nouvelle épidémie. Et parmi ces centres qui ont vu le jour là-bas, celui de Rwampara, financé par l'agence humanitaire de l'Union européenne et géré par l'ONG Alima. Son installation n'a pas été simple. Une partie des installations ont été incendiées le 21 mai dernier par les proches d'une personne décédée qui voulait récupérer le corps. Depuis, la situation s'est en partie apaisée et les premiers malades sont arrivés ce week-end. Reportage de Pauline Azidi.
Désinfection des chaussures et lavage de mains obligatoire pour pénétrer dans le centre de traitement. Auparavant, les patients Ebola étaient pris en charge à l'hôpital adjacent. Désormais, des tentes un peu particulières, toutes transparentes, ont fait leur apparition sur un ancien terrain dégagé, comme l'explique le docteur Papislam de l'ONG Alima.
On veut faire de la vraie médecine et n'est pas juste donner des traitements perroses. Donc ça, ici, on a 4 chambres pour les soins intensifs où on peut réanimer les malades.
Le personnel médical peut alors évoluer autour de ces bulles et pour le docteur Richard Cogent, médecin réanimateur, c'est indispensable pour tenter de sauver le plus de patients.
Pratiquement la quasi-totalité vient avec des troubles digestifs, donc ils perdent beaucoup de liquides et des électrolytes en même temps. Et donc pour ça, il faut tout corriger, quoi. Il faut avoir une interaction constante avec les patients. Et donc ce design, il permet une interaction constante avec les patients. Après, quand ils sont stabilisés, ils partent selon leur statut biologique. Il y en a qui sont suspects, ils partent dans les chambres individuelles. Et ceux qui sont confirmés, ils vont dans une salle commune.
C'est alors Patience, jeune infirmière de 26 ans, qui prend la relève et veille sur les malades.
C'est difficile, ça demande du courage. Si tu essaies, ils feront vraiment te protéger. Tu dois respecter d'abord les mesures barrières, tu portes bien de haut jusqu'en bas.
Sur le pont depuis le début de l'épidémie, elle se dit épuisée, mais prête à soutenir la riposte jusqu'au bout. Pauline Azidi, de retour de Bounia RFI.
Le dépouillement continue au Pérou après le second tour de la présidentielle dimanche. Il reste environ 5% de bulletins comptabilisés. Pour l'instant, c'est le candidat de gauche, Roberto Sanchez, qui est donné en tête, mais très légèrement, devant sa rivale de droite, Keiko Fujimori. L'annonce d'un résultat officiel et définitif pourrait prendre plusieurs jours. En Arménie, les urnes ont désigné beaucoup plus clairement un vainqueur. Cette fois, ce sont des élections législatives qui étaient organisées ce week-end et le parti du Premier ministre Nicole Pachignan est arrivé largement en tête. Pour lui, aucun doute, c'est un message de la part des électeurs pour poursuivre le rapprochement du pays avec les États-Unis et l'Union européenne. Ça veut dire, dans le même temps, s'éloigner de la Russie, mais ne pas rompre totalement non plus, car l'économie arménienne, c'est un fait, dépend aussi de Moscou. Reportage à Yerevan de notre envoyé spécial Daniel Valo.
Nicole Pachignan l'a répété devant ses partisans juste après l'annonce de sa victoire. Il va poursuivre sa politique de rapprochement avec les pays européens. Une bascule saluée par cette électrice de Pachignan qui se dit favorable à une candidature de l'Arménie pour entrer dans l'Union européenne.
Si cela est nécessaire pour renforcer notre pays, pour élever notre niveau de vie, Alors nous devons tout tenter pour y arriver. Tous les Arméniens le souhaitent. Tous ceux qui aiment ce pays et qui veulent sa prospérité le souhaitent.
Mais Nikol Pachinian a également rappelé qu'il ne souhaitait pas entrer en confrontation avec la Russie et qu'il voulait simplement équilibrer ses appuis et ses alliances. Il faut renouer avec Moscou, nous explique Narek Babayan, député du parti contra-civil de Nikol Pachinian.
Nous n'avons pas choisi que nos relations avec la Russie se dégradent. Nous avons choisi une politique équilibrée, au mieux de nos intérêts. Je pense que cette tension va s'estomper avec le résultat des élections. Et nous sommes prêts à négocier et à résoudre ces différends que nous n'avons pas provoqués.
Nikol Pachinian l'avait annoncé avant le scrutin, dans l'espoir d'apaiser les tensions avec Moscou. Il souhaite réserver son premier déplacement à l'étranger après sa réélection à Vladimir Poutine. Avec un premier objectif, obtenir la levée des sanctions commerciales prises par la Russie en amont du scrutin. Daniel Vallaud, Yerevan RFI.
Les footballeurs français se rassurent un petit peu avant le mondial masculin qui commence jeudi. Victoire 3-1 hier soir face à l'Irlande du Nord pour leur dernier match amical, même si c'est vrai la performance des Bleus n'a pas franchement convaincu tout le monde. Ça reste quand même un meilleur résultat que celui de jeudi dernier. Ils s'étaient inclinés 2-1 contre la Côte d'Ivoire. On termine avec du cinéma et le nouveau film du réalisateur américain Steven Soderbergh, The Christophers, avec Ian McKellen et l'actrice britannique d'origine ghanéenne Michaela. Ça sort demain en France. C'est une comédie sur la fraude artistique, Elisabeth Le Carré.
Think of this as a way to get revenge.
Une vieille gloire du pop art, des enfants cupides, une faussaire de génie. The Christophers est un film sur l'arnaque, mais surtout dans la façon dont le marché de l'art transforme n'importe quelle toile en produit financier. Le héros du nouveau Soderbergh est une star de la peinture, un homme dont les tableaux se vendent à des prix stratosphériques. Ses enfants voient dans ces toiles inachevées une opportunité. Ils engagent une restauratrice d'art pour les terminer. L'objectif, les faire passer pour des découvertes posthumes et en tirer un maximum d'argent. Ce dispositif policier, Soderbergh le filme dans un format resserré, presque théâtral, et lui ajoute un adjuvant, l'amitié improbable qui va se nouer entre le vieux misanthrope et la faussaire. C'est du Soderbergh à l'état pur, élégant en surface, clinique sur le fond, avec cette question en suspens. Qu'est-ce qui rend une toile précieuse? Est-ce la main de l'artiste ou le récit qu'on peut construire autour d'elle?
Elisabeth Le Carré, 6h13 à Paris.
Gaëtan Plenet.
Le retour de l'information africaine dans très exactement 17 minutes. D'ici là, on est à New Delhi. Pour rejoindre notre correspondant en Inde, avec lui, on va parler du système éducatif secoué par plusieurs crises depuis quelques semaines, des crises et polémiques qui mettent en lumière une méritocratie de plus en plus dénoncée. Olivier Mellor sera notre invité culture ce matin. À Paris, il met en scène une pièce de théâtre qui interroge le spectateur sur son rapport au travail. Et puis, on va parler du cortisol, hormone décriée du corps humain liée au stress. On verra qu'il faut surtout la remercier d'exister, cette hormone. Ce sera notre conseil santé du jour. Mais d'abord, on part en Suède, où la criminalité organisée se féminise. De plus en plus de filles impliquées et de plus en plus jeunes. En plus, parfois, elles n'ont qu'une douzaine d'années. Des filles jeunes, selon le Conseil suédois de prévention du crime, ça attire moins l'intention des autorités. Reste que pour nombre d'entre elles, ce n'est pas forcément un choix et ce n'est de toute façon pas le bon, illégal évidemment, mais dangereux aussi, très dangereux. Reportage à Stockholm d'Ottilia Ferré.
À 200 km au nord de Stockholm, Nathalie Klockars, 29 ans, décroche le téléphone tout en installant sa fille dans la voiture. Jusqu'en 2020, elle a été une importante vendeuse de drogue et a travaillé pour différents gangs pendant près de 5 ans. À 19 ans, elle récoltait plus de 7000 francs suisses par semaine. Mais depuis, les choses ont bien changé.
Quand j'ai commencé, c'était encore un peu honteux de vendre de la drogue ou d'avoir un petit copain criminel. Mais aujourd'hui, c'est tendance. Tout d'un coup, c'est devenu cool d'être criminel. Mais dans ce milieu-là, les femmes ont très peu de valeur. Tout a tellement changé. Je pense que si j'étais active aujourd'hui, j'aurais probablement été victime de violences ou de viol.
Aujourd'hui, environ 10 000 filles sont considérées comme liées au réseau criminel en Suède. Le point positif, c'est qu'elles semblent en sortir plus facilement que les garçons. Devenir maman, c'est ça qui a poussé Nathalie à tout arrêter. Quand elle a accouché, elle a été soutenue et accompagnée par les services sociaux.
She's like the
I know it doesn't feel like.